Bonjour mes chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, nous reprenons notre série d'émissions sur la bonne nouvelle aux musulmans et nous allons regarder de près le rythme chrétien de la semaine et du mois. Si vous avez des objections à formuler ou si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous écrire à radio-silence.fr Wanadu. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Le rythme de la semaine. Le rythme de la semaine est vraiment un cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Dans l'Exode, lors de l'annonce des 10 commandements, nous lisons « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Or, le travail et le repos, tous les deux viennent de Dieu et sont voulus par Dieu, car ils permettent à l'homme de participer à l'œuvre créatrice de Dieu. D'ailleurs, ce commandement de Dieu recoupe parfaitement notre rythme biologique. Nous avons besoin d'un jour de repos par semaine, comme nous avons besoin de la nuit pour nous ressourcer. Puisque Dieu s'est reposé le 7e jour, l'homme aussi est invité à prendre du repos ce jour-là. Toute tentative de changer ce rythme nuit à la santé physique et psychique de l'individu. Pendant la Révolution française, on a imposé un rythme de 10 jours au peuple français. C'est-à-dire, on a divisé le mois en 3 décades au lieu de 4 semaines. Mais on s'est rendu compte bien vite que les gens se sont trouvés complètement déphasés. Pourquoi avons-nous besoin d'un jour de repos? Nous avons besoin d'un jour de repos pour rappeler à l'homme que sa valeur ne réside pas seulement dans son travail et le rendement de ce travail, mais au contraire que la dignité de sa personne réside dans le fait qu'il est créé à l'image de Dieu. Or, Dieu s'est reposé le 7e jour. Par conséquent, le peuple juif célébrait le sabbat, notre samedi, comme jour de repos. Mais les disciples de Jésus ont bien compris qu'avec la résurrection de Jésus, il y a eu commencement d'une nouvelle ère. Ils ont donc commencé à célébrer le premier jour de la semaine comme jour du Seigneur en commémoration du premier jour de la création, mais d'une création nouvelle, et en même temps comme mémorial du 8e jour, le jour de la résurrection du Christ. Dans la symbolique des nombres, le 8 avait une signification spéciale chez les Israélites. Il leur rappelait le commencement d'une nouvelle époque après le déluge, car seulement 8 personnes, Noé et sa famille, purent échapper à cette catastrophe. Le chiffre 8 symbolise donc un nouveau commencement. C'est aussi le chiffre de l'infini, de l'au-delà, de l'éternité. C'est pourquoi les anciens baptistères chrétiens ont souvent été construits dans une forme octogonale, car le baptême confère aux chrétiens une vie nouvelle orientée vers l'éternité. Chez saint Jérôme, nous lisons ceci. Le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, le jour des chrétiens, est notre jour. C'est pour cela qu'il est appelé jour du Seigneur, car c'est ce jour-là que le Seigneur est monté victorieux auprès du Père. Si les païens l'appellent jour du soleil, nous aussi nous le confessons volontiers. Car aujourd'hui s'est levée la lumière du monde, aujourd'hui est apparu le soleil de justice dont les rayons apportent le salut. Rappelons que dans les pays germaniques et britanniques, on appelle le dimanche le jour du soleil, Sonntag, Sunday. Car le Christ est le nouveau soleil de justice, lumière née de la lumière. Souvenez-vous de ce que nous avons dit à propos du dimanche, la leçon précédente. Au cours de la semaine, nous avons des jours marqués d'une signification spéciale, comme par exemple le mercredi, dédié à Saint-Joseph, ou le jeudi, dédié à la commémoration de l'Eucharistie. Nous y reviendrons encore. Mais regardons d'abord de près les trois jours du vendredi, du samedi et du dimanche. Le vendredi. Pour les chrétiens, le vendredi rappelle le jour de la mort du Christ. Il devrait donc être un jour de recueillement et de mortification, donc un jour de jeûne. Il y a des chrétiens qui font maigre en ne mangeant pas de viande. Il y en a d'autres qui ne mangent que du pain et ne boivent que de l'eau. L'Église nous exhorte à faire des sacrifices ce jour-là, mais le comment, c'est laissé au bon vouloir de chacun. Dans beaucoup de régions chrétiennes, les cloches sonnent à 3 heures de l'après-midi pour nous rappeler l'heure de la mort du Christ, survenue à la 9e heure, ce qui est 3 heures de l'après-midi. Si l'on peut, on est invité à dire une prière, par exemple, cette courte prière jaculatoire, au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, « J'ai confiance en vous ». Ou bien, on est invité à assister à la Sainte Messe ce jour-là. Pendant le carême, c'est-à-dire pendant les 40 jours de la préparation à la fête de Pâques, la plus grande fête des chrétiens, on récite souvent le chemin de croix, en communauté ou tout seul. Le samedi. Pour beaucoup de gens, le samedi est enfin le jour où l'on ne travaille pas, où l'on peut faire la grâce matinée ou des achats, enfin un jour du laisser-aller complet. Chez les chrétiens, le samedi est dédié à la préparation du dimanche, mais c'est aussi le jour de la semaine dédié à la Sainte Vierge. Pourquoi ? Parce que la Sainte Vierge est la personne humaine la plus proche de notre Seigneur, pour ainsi dire sa collaboratrice dans l'œuvre de la rédemption. C'est grâce à son consentement que Dieu a pris chair dans son sein virginal. C'est avec son consentement muet que Jésus a pu accomplir et parachever le grand sacrifice de la réconciliation avec Dieu le Père. C'est grâce à son consentement intérieur que Jésus a pu sceller la nouvelle éternelle alliance en versant son propre sang. Et lorsque Jésus reposait au tombeau et que tous les apôtres ont failli sombrer dans le désespoir, c'est elle qui a maintenu la foi dans la victoire de son Fils en son fort intérieur. C'est pourquoi beaucoup de saints, tels que quelques pères de l'Église, pensaient que le Christ ressuscité est apparu le premier à sa mère. Dans beaucoup de communes chrétiennes, on récite donc le chapelet le samedi, souvent avant la Sainte Messe. Nous en avons déjà parlé. Mais rappelons que le chapelet est la méditation par excellence de l'Évangile en commun avec la Sainte Vierge. C'est elle qui nous introduit dans les mystères de la foi si nous contemplons les différentes scènes de la vie du Christ en commun avec elle. C'est elle notre guide et notre maîtresse de la vie spirituelle. Le dimanche. Résumons en quelques mots ce que nous venons de dire du dimanche. Le dimanche nous rappelle le jour de la résurrection du Christ. C'est le mémorial hebdomadaire de la Pâque, le mémorial de la victoire du Christ sur le péché, Satan et la mort. C'est l'accomplissement de la première création et le commencement d'une nouvelle création. Ainsi, le dimanche est un jour férié, libre pour le culte divin, un jour de rencontre avec les autres, un jour de détente et de la découverte de la nature. Dans l'Ancien Testament déjà, on célébrait le début d'une journée en commençant la veille. C'est pourquoi le samedi soir devrait déjà nous préparer à la fête du dimanche. Dans beaucoup de communes, on célèbre la messe anticipée du dimanche pour ceux qui, par exemple, sont empêchés d'aller à la messe le dimanche même. mais la règle, c'est quand même la célébration eucharistique le dimanche. L'idéal serait que la famille entière se rende ensemble à la Sainte Messe pour louer Dieu et pour le remercier de tous ses bienfaits, surtout pour l'œuvre et le sacrifice rédempteur de son Fils, qui se donne à nous dans les espèces eucharistiques du vin et du pain, pour que nous aussi nous devenions membres de son corps mystique. Le dimanche est donc le jour de l'assemblée liturgique par excellence, le jour de la famille chrétienne, le jour de la joie et du repos du travail. Il est le fondement et le noyau de toute l'année liturgique. Les familles, ainsi que tout un chacun, est invité à se prélasser le dimanche comme jour de repos, mais aussi à aller dans la nature pour admirer et découvrir la création de Dieu, pour l'en louer, pour en admirer la beauté. C'est un ressourcement inouï qui nous porte à travers toute la semaine et qui nous donne des ailes pour affronter les difficultés à venir. Les mois de l'année vus dans une optique chrétienne. Chaque mois de l'année a son ambiance et son caractère particulier. Ceci vaut aussi bien pour l'année civile que pour l'année liturgique. Par exemple, le mois de mai est entièrement dédié à la vénération de la Sainte Vierge. Le mois de juin est dédié au culte du Sacré-Cœur. Très souvent, on célèbre au cours de ce mois la grande fête eucharistique de la Fête Dieu. Le mois de juillet est consacré à la vénération et à l'adoration du précieux sang du Christ. Le mois de septembre est consacré à la vénération des anges. Le mois d'octobre est très souvent appelé le mois du Saint-Rosaire. Le mois de novembre est dédié aux âmes du purgatoire. Dans chaque mois, il y a aussi des jours spéciaux. L'Église commence chaque mois dans l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi le premier jeudi, le premier vendredi et le premier samedi du mois ont une signification toute spéciale. Le premier jeudi du mois. Ce jour-là, l'Église commémore l'instauration de la Sainte Eucharistie et le sacerdoce par le Christ. Dans beaucoup de communes, on célèbre l'heure sainte. Qu'est-ce que c'est que l'heure sainte ? L'heure sainte consiste à passer, dans la nuit du jeudi au premier vendredi de chaque mois, une heure de prière unie au Christ dans le début de sa passion, c'est-à-dire au jardin des Oliviers. Au XVIIe siècle, Jésus avait demandé lui-même à Sainte Marguerite Marie Alacoque de s'unir à son agonie à Gethsémani en réparation de tant d'indifférence, d'ingratitude et de tant de refus de la part des hommes. Il lui avait demandé de prier avec lui le jeudi soir, de 11h du soir à minuit. L'Église nous permet cependant d'observer l'heure sainte à partir de 4h de l'après-midi, déjà en nous unissant spirituellement à la souffrance et à la lutte intérieure du Christ. Pendant cette heure de prière, il nous est même permis d'exécuter tous les travaux manuels qui laissent l'esprit libre de méditer. Il s'agit donc en quelque façon de consoler le cœur de Jésus en partageant l'angoisse de la solitude traversée à cette occasion, alors que se profile le drame de sa passion et de sa crucifixion. Il ne s'agit pas simplement d'un temps de prière personnelle, il s'agit d'une prière structurée autour de la méditation du mystère de l'agonie du Christ, de sorte que nous soyons présents de cœur là même où les apôtres, accablés de fatigue, n'ont pu trouver la force de veiller une heure avec lui. Il nous est donc recommandé de réciter les mystères douloureux du chapelet, ou le chemin de croix, ou la litanie du précieux sang du Christ, ou la litanie du Sacré-Cœur du Christ. Là où l'heure sainte est vécue en paroisse ou dans une communauté, le Saint-Sacrement est souvent exposé. Le premier vendredi du mois. Le premier vendredi du mois est consacré à la mémoire de la passion et de la mort du Christ. le culte du Sacré-Cœur, qui est surtout pratiqué le premier vendredi du mois, remonte à une demande personnelle du Christ, qui est apparue à plusieurs reprises à Sainte Marguerite Marie. Jésus lui avait montré son cœur en disant « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. » Une autre fois, il lui avait dit « Mon divin cœur est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. » Par l'étude du Saint Linceul de Turin, nous savons que Jésus est mort de rupture du cœur. Tout le sang qui s'est déversé alors dans son péricarde a une immense valeur réparatrice dans l'entendement de l'Ancien Testament. Par sa mort sur la croix, il a parachevé le sacrifice du Yom Kippour, c'est-à-dire le sacrifice de la réconciliation avec Dieu, en versant son propre sang. Et c'est par ce précieux sang qu'il a obtenu la rémission des péchés et qu'il a scellé la nouvelle alliance avec Dieu que nous commémorons dans chaque sainte messe au moment de la consécration du pain et du vin. Célébrer le premier vendredi du mois veut donc dire s'unir au sacrifice rédempteur du Christ. D'ailleurs, le Christ lui-même avait demandé à Sainte Marguerite Marie d'observer les premiers vendredis du mois 9 fois de suite, en recevant la Sainte Communion et en l'offrant en réparation pour les pécheurs et en se confessant le jour même ou dans les 8 jours qui suivent. Il a ajouté 12 promesses pour ceux qui s'unissent à lui ces vendredis-là en signe de consolation et de réparation. Le premier samedi du mois. L'Église n'adore pas seulement le cœur de Jésus, mais elle connaît aussi une vénération spéciale du cœur de Marie. Déjà dans l'Écriture, le cœur de Marie est mentionné à plusieurs reprises. Ainsi, nous lisons dans Saint Luc. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Ou bien lors du recouvrement au temple. Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth, et il leur était soumis, et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Lorsque Siméon bénit l'enfant Jésus, il dit à Marie, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même une épée te transpercera l'âme. » Le culte du cœur de Marie connaît une longue tradition dans l'Église catholique, mais il fut surtout répandu au XXe siècle grâce aux apparitions à Fatima. Que s'est-il passé à Fatima? En 1917, 3 enfants, Lucia, Francesco et Jacinta, ont eu plusieurs apparitions de la Vierge Marie, venues spécialement demander prière et pénitence pour sauver le monde qui court à la catastrophe. Pour authentifier son message, Marie a fait un grand miracle le 13 octobre 1917, devant plusieurs dizaines de milliers de personnes. Lors de la 3e apparition, le 13 juillet, la Sainte Vierge a montré aux enfants les pécheurs en enfer. Pour empêcher que les pécheurs soient damnés, elle a demandé aux enfants la célébration des premiers samedis du mois. À tous ceux qui observent 5 fois de suite les premiers samedis du mois, en signe de pénitence et de réparation, elle promet son assistance à l'heure de la mort et elle leur promet toutes les grâces nécessaires pour être sauvés. Elle a d'ailleurs demandé aux enfants d'ajouter la prière suivante à la fin de chaque dizaine du chapelet. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Cette prière est aussi appelée la prière de Fatima. Qu'est-ce qu'il faut donc faire ces 5 premiers samedis du mois? La Sainte Vierge demande la Sainte Communion, la Sainte Confession, qu'on récite le chapelet tout en méditant les 15 mystères, en lui tenant compagnie durant 15 minutes, dans le but de lui faire réparation pour tous les outrages. En 1925, la Vierge Marie dit à Lucie, l'aînée des 3 petits voyants, « Regarde, ma fille, mon cœur entouré d'épines que les hommes ingrats, à tout moment, m'enfoncent par des blasphèmes et des ingratitudes. Toi, du moins, cherche à me consoler et dis que je promets d'assister à l'heure de la mort, avec toutes les grâces nécessaires au salut, tous ceux qui, le premier samedi, 5 mois de suite, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront le chapelet et me tiendront compagnie pendant 15 minutes en méditant les 15 mystères du rosaire avec l'intention de me faire réparation. » Les 5 samedis répondent, selon une révélation de Jésus, aux 5 espèces d'offenses et de blasphèmes contre le cœur immaculé de Marie. Blasphème contre le dogme de l'Immaculée Conception. Blasphème contre la virginité perpétuelle de Marie. Blasphème contre sa divine maternité, avec en même temps le refus de la reconnaître comme mère des hommes. Blasphème de ceux qui cherchent à semer dans le cœur des enfants l'indifférence, le mépris ou même la haine de cette mère immaculée. Offense de ceux qui l'outragent directement dans ses saintes images. Le 8 décembre 1942, le Saint-Père Pie XII consacra à Rome solennellement l'humanité entière au cœur immaculé de Marie. Il institua une fête spéciale au cœur immaculé de Marie. Cette fête se célébrait jadis le 22 août, après Vatican II. Elle a été transférée immédiatement après la fête du Sacré-Cœur, célébré le 3e vendredi après la solennité de la Pentecôte. Pour terminer, je vous invite à renouveler tous les jours la consécration au cœur immaculé de la Sainte Vierge en récitant une prière personnelle ou la prière suivante. Ô ma souveraine, ô ma mère, je m'offre à vous tout entier et pour vous donner une preuve de mon dévouement, je vous consacre aujourd'hui mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout moi-même. Puisque je vous appartiens, ô bonne mère, gardez-moi, défendez-moi comme votre bien et propriété. Amen. Mes chers auditeurs et mes chères auditrices, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Je vous remercie de votre attention. Et je vous dis au revoir, jusqu'à la prochaine fois, votre Véronique.